Autre radio, autre culture, bonsoir. Nous reprenons nos émissions parisiennes avec aujourd'hui la venue de Karim Sukar. Bonjour Karim.
Bonjour.
Et nous avons également notre candide, entre guillemets, qui est Christophe Bouillot,
bonjour.
Le bavard de Autre Radio, Autre Culture.
Bonsoir.
Oui, parce que là quand même, là commence à faire nuit.
Oui, là c'est bonsoir.
Karim Sukar, je suis très contente de te voir, je tutoie.
Allez, c'est parti. Moi aussi.
Je suis très contente parce que tu es compositeur.
Absolument.
Également producteur et éditeur.
Alors,
nous allons parler de ces trois branches professionnelles et nous allons débuter par le côté compositeur. Donc, musicien
oui.
Depuis tout petit.
Clavier. Pianiste. Ma maman m'a mis au piano vers 4 ans. Je voulais pas en faire. Elle a eu raison. Elle m'a forcé. J'ai eu beaucoup de mal à en faire pendant très longtemps parce qu'en fait, je me suis très vite rendu compte que je préférais jouer ce que j'avais dans la tête que ce qu'il y avait sur les partitions. Donc pour apprendre un instrument au début, c'est un peu délicat quand même. Donc ça a rendu l'apprentissage un peu long, mais heureusement, elle était là, elle a veillé au grain, elle a veillé à ce que je prépare mes cours et à ce que je passe mes devoirs. Mais donc voilà, après, parcours un peu plus classique. Vers 14 ans, j'ai un ami qui jouait de la variété, qui m'a introduit cette activité délicate. Donc on s'est mis, il m'a appris l'harmonie. Il m'a appris à faire des relevés de morceaux de variété, il m'a appris à jouer de la variété, toutes celles que moi j'aimais chanter ou que j'aimais fredonner ou qu'on aimait écouter en voiture. Donc ça m'a encore ouvert les yeux sur autre chose et là je me suis dit, quand même c'est bien, j'aime bien. J'aime bien jouer de la musique sur laquelle on peut chanter, j'aime bien jouer de la musique d'accompagnement et puis je me suis rendu compte surtout que j'aimais bien composer. Presque immédiatement j'ai écrit mes premiers morceaux, c'est de la musique instrumentale. Ce qui est marrant, c'est que cette année-là, je suis rentré en vacances en France, que je vivais en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis rentré en vacances en France et c'était l'année de l'apparition du premier numéro de Keyboard Magazine. Et cette année-là, la même année, donc, j'ai découvert les synthétiseurs. Et je suis revenu et j'ai acheté presque immédiatement un DX7. Alors, j'ai tanné mes parents pour avoir un DX7, donc je l'ai eu. Et j'ai commencé à faire mes premières compositions où je mélangeais du piano et un DX7. Et après, le cercle infernal, hein, une petite mixette Yamaha, une boîte à rythme, un Oberheim pour amener un petit grain analogique avec le grain de la synthèse FM du DX7, et puis l'engrenage. Voilà. Après, je me suis dit, avec tout ça, il faut commencer à apprendre à arranger. Donc, comme j'étais en Afrique et que c'était moins pratique, j'ai acheté des livres. Chaque fois que je rentrais en France, j'achetais des livres et des partitions avec toutes les parties orchestrales, des morceaux à la mode, des choses que j'aimais. Et voilà, et j'ai fait autodidacte arrangeur aussi. Donc du coup, je pouvais commencer à faire les arrangements de mes morceaux. Là, je me suis mis à composer de la musique qui était plus que instrumentale. C'était aussi de la musique avec des textes. Mes premières chansons vers 16-17 ans.
Quel est le type de musique que tu écoutais à ce moment-là ?
Un grand éclectisme. Chez moi, on écoute beaucoup de musique, mais on écoute de tout. De Joe Dassin à Jacques Brel, en passant par Jimi Hendrix, AC/DC, Prokofiev. Donc c'était très très éclectique. Des parents qui aimaient beaucoup Brassens, Brel et Dassin, donc quand même une grosse culture du texte. Une maman prof de français et de lettres classiques, donc petite formation aussi dans ce domaine, petite habitude à ne pas faire dans le facile. Et puis sinon, pour le reste, à peu près tout. J'ai de la chance vraiment d'avoir des parents qui écoutaient tout, et donc j'ai vraiment écouté de tout. Mais avec passion tout de suite, par contre. C'était, ouais. J'en aimais vraiment beaucoup écouter de musique. Énormément de musique de variété. Ma mère est une fan des 60s, donc Johnny Hallyday, Sheila, les Yéyés, Nino Ferrer, enfin, vraiment de tout.
Et toi, utilisant justement des synthés, t'as pas été plutôt plus ouvert sur des musiques comme les Pink Floyd ou...
Aussi, oulala. Bien sûr, l'intégrale de tous ces gens-là. Vraiment. Dès le début des années 80, à l'arrivée de Depeche Mode... Grand fan de Depeche Mode, qui étaient les premiers à mettre ça dans un cadre moins classique, parce que Vangelis, ça restait de la musique instrumentale et de la musique, je dirais, quand même extrêmement classique dans sa forme, avec quand même une grande beauté, une grande élégance, un travail des textures, un travail des mélodies, mais pas de mélodie avec un texte, pas de chanson, une musique orchestrale. Donc l'arrivée de Dépêche Mode, pour moi, c'était à peu près, bien sûr avant Vangelis, mais Jean-Michel Jarre, Oxygène, et une sorte de pierre angulaire de ce que je peux être, de ce que je peux aimer. Les concerts en Chine, enfin voilà, tous ces disques-là, on les avait à la maison aussi. C'est vrai que à l'arrivée dans la variété de ces instruments-là, j'étais comme un fou. Donc Dépêche Mode, j'ai juste tous les albums. Je crois que je dois connaître toutes les parties de tous les arrangements par cœur. Je pense. Quand je les écoute, je peux chanter chacune des parties par cœur sans me tromper. C'est assez simple, outre la mélodie. Et après, il y en a quelques dizaines. Mais pareil, c'est-à-dire que fin des années 80, l'album Purple Rain de Prince, je découvre Prince et je vais rester fan inconditionnel et tout écouter et tout connaître de son œuvre jusqu'à Diamonds and Pearls. Jusqu'au côté hip-hop ou R&B, où là, moi, j'ai décroché parce que voilà, c'était pas, ça répondait plus à ce que j'attendais de la musique. Et voilà. Mais par contre, avec une découverte de ce qui a précédé Purple Rain, c'est-à-dire que le fait d'avoir découvert l'artiste et d'accrocher sur tout ce qui est arrivé après, ça m'a ramené à des albums avant, 1999, etc., etc. Donc, après, bien sûr, Michael Jackson, voilà, je suis aussi inconditionnel. Ce garçon a inventé la pop. Il a inventé peut-être les deux tiers de ce qu'on utilise aujourd'hui dans tous les genres de musique confondus et qu'on lui doit beaucoup. Voilà. Bien d'autres. Led Zeppelin, les Beatles, l'intégralité des Beatles. Enfin, après, on enfonce des portes ouvertes. Mozart.
On dit souvent que ceux qui aiment les Beatles ont du mal à supporter. Les Rolling Stones, est-ce que c'est...
Ah non, je suis fan des deux. Ah oui, oui, tragédie. Fan des deux, fan des Rolling Stones, fan des entre guillemets, descendants des Rolling Stones, très fan des White Stripes aujourd'hui, enfin, de ce que Jack White fait en solo aussi. Non, vraiment, pas de parti pris. J'aime la musique, si elle a quelque chose à me raconter...
Merci beaucoup. Il y a le petit café qui arrive. Là. Ah.
Je vais aller mieux, je vais plus parler. Au secours. non, si une musique a quelque chose à me raconter, je l'écoute. Enfin, voilà. Après, on ne peut pas toujours être réceptif à tout. Et j'essaye d'écouter même les choses que je n'aime pas au moins deux fois. Parce qu'on ne peut pas juger sur une seule fois. Ouais, c'est une seule fois, on aime ou on n'aime pas. J'ai découvert récemment la musique étant un peu plus une espèce d'objet de consommation aujourd'hui. C'est un peu plus. On a des réflexes de rejet, comme des réflexes d'affection, beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses, mais qui ne durent pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en tout cas moi, par rapport à mon parcours, je reprenais le temps maintenant de réécouter les albums plusieurs fois et de les découvrir plusieurs fois. Et des groupes actuels comme Muse ou comme Keane me renvoient à ce travail-là. Muse, leur dernier album, enfin moi personnellement, je le trouve vraiment fantastique. Mais c'est un album, si on écoute 30 secondes du début d'une chanson et qu'on croit qu'on a écouté la chanson, c'est mort. C'est juste mort. La chanson se construit au fur et à mesure et on est obligé de faire le voyage ou pas. Et il y a des albums comme ça que je vais écouter et où je vais immédiatement faire le voyage. Il y a des albums où je ne vais pas accrocher du tout, mais je me dis toujours que ça peut être à cause du moment, à cause de la journée, à cause du
matin.
Voilà, voilà, on ne sait jamais quel courrier recommandé désagréable a pu nous mettre dans de mauvaises dispositions. Donc je laisse toujours une deuxième chance à une musique, quelle qu'elle soit, et un album quel qu'il soit, ne serait-ce que parce que c'est quand même un travail énorme et une réunion de volonté et d'énergie énorme. Surtout actuellement, la grande mode est de dire « Oh, qu'est-ce que c'est mal fait ? Oh, qu'est-ce que c'est mal produit ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ?» À la base, j'essaye de me discipliner pour réécouter le fond, c'est-à-dire réécouter l'œuvre, réécouter la chanson, faire un peu abstraction du reste, parce que même nous qui sommes, entre guillemets, des professionnels, on a un peu tendance maintenant à parler beaucoup des aspects professionnels et à plus du tout prêter attention au fond des choses, et à plus du tout juger un album sur la qualité de l'artiste ou sur la qualité du contenu artistique. Donc voilà, j'essaye de revenir à ça.
Cela est pas dû aussi par les méthodes d'enregistrement, parce que quand un enregistrement ne plaît pas, on a du mal aussi à pouvoir écouter un album jusqu'au bout.
Oui, oui, il y a un aspect technique, c'est sûr, mais justement, c'est ce que j'essaye maintenant de dépasser. J'essaye d'imaginer la chanson dans sa version la plus pure, comme si c'était un guitare-voix ou un piano-voix, même si je l'entends produite, et j'essaye surtout de voir si l'artiste finit par m'interpeller à travers tout le reste ou pas. À la limite, à l'arrivée, c'est sa responsabilité à lui. Ça, quelles que soient les contingences techniques, un artiste qui a quelque chose à dire arrive toujours à passer à travers. On finit toujours par arriver à être touché par une émotion, par un échange, par une sincérité. Après, s'il n'y a pas ça, après, on est. Voilà, je pense que beaucoup des problèmes techniques ne sont pas surconvenus parce qu'on finit par être persuadé que la technique est plus puissante que l'interprète ou que la musique. Et je pense que la technique n'est vraiment qu'un moyen et qu'un média. Enfin, c'est vraiment qu'une courroie de transmission entre un artiste et son public. Et que. Si on prend la peine de laisser des artistes un peu plus s'exprimer, si on revient à de l'expression artistique dans la production et dans la gestion d'un album, on revient à des choses plus essentielles. Et moi, j'ai le cas parce que justement, avec le studio que j'ai maintenant, on a décidé avec ma femme de se remettre dans la production de jeunes groupes, de jeunes artistes. Et on voit, là où je suis d'accord avec toi sur ce point-là, c'est que souvent, on voit qu'ils ont été habitués à mal travailler, à ne pas travailler, en fait. On leur dit « Ah bah, tu chantes mal, c'est pas grave, on corrigera. Ah bah, tu chantes pas en place, bah, c'est pas grave, on te recalera. » Et je pense que c'est un tort de la part des réalisateurs ou des producteurs de penser qu'on peut tout arranger avec un programme, que ce soit la mise en place ou la justesse, qu'il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait un artiste si on veut qu'il se passe quelque chose. Il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Alors, c'est peut-être moi qui suis bête, mais Jacques Brel n'est pas l'empereur de la justesse dans la voix, mais je ne peux pas imaginer quelqu'un d'autre que lui chanter ses chansons plus justement que lui. C'est impossible. Et je ne connais pas quelqu'un capable de les défendre ou de me procurer une telle émotion que quand c'est lui qui chante. À part certaines chansons chantées par Johnny Hallyday, on sent bien qu'il est habité aussi, mais c'est pareil, c'est un interprète de folie. Et je pense que notre responsabilité de producteur, de réalisateur, d'acteur de ce métier aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les artistes aient à nouveau à travailler. Alors forcément, il y en a qui survivront pas, parce que il y en a qui vont être un peu écrémés par ça, parce que du coup, forcément, si on a quelqu'un qui chante faux et pas dans le temps, et qui sait pas chanter juste et dans le temps, et qu'on lui dit va falloir travailler, il y en a qui se décourageront et qui insisteront pas, mais il y en a qui demandent que ça. Moi, j'en connais des connus qui font des grandes choses, qui passent dans mon studio et je les vois, ils sont enregistrés, on leur dit « Waouh, c'est super !» Et ils regardent le réalisateur et ils lui disent « Mais j'ai chanté que deux fois, je m'échauffe, tu veux pas que j'en refasse une? Tu veux pas que j'essaye de... Ah non, non, c'est bien, t'inquiète, on s'arrangera. » Qu'est-ce que ça veut dire « on s'arrangera » quand on a un artiste qui est là, qui est motivé, qui est prêt, qui vient de finir de s'échauffer? On peut toujours lui donner une chance, on peut le laisser essayer d'exprimer quelque chose. Donc voilà, donc je suis pas sûr que ce soit... La technique, je pense que c'est la fainéantise des gens. Je pense que la technique, l'homme a toujours été ingénieux pour être fainéant. Logique, plus il est ingénieux, plus il peut se reposer. Mais je pense que voilà, parfois, c'est peut-être un peu trop.
Voilà, on a passé un cap, parce qu'on parlait du côté compositeur. On est passé du coup au niveau de l'ingénieur du son, en fait, de la personne qui a un studio d'enregistrement et qui produit des artistes.
Oui, c'est un studio qui est en activité depuis une dizaine de mois. C'est un studio dont on vient de finir la construction. On a, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a cherché pendant. Avant, j'étais avenue de Villiers. On avait un studio d'enregistrement qui était dans une cave, qui était un petit studio d'une cinquantaine de mètres carrés, régie et salle de prise confondues, dans lequel j'ai fait pas mal de choses. Mais là, on faisait pas de production. On produisait mes compositions à destination de la télé et de la radio. Mais on ne faisait que ça. De temps en temps, on hébergeait quelques projets, des mix d'albums, des choses comme ça, parce que la régie le permettait, mais la cabine, pas. On ne pouvait pas faire de prise vraiment, vraiment importante. On avait une hauteur sous plafond de 2,20 m, une salle de prise de 18 m². Donc voilà, c'était quand même un son assez particulier. Puis on a cherché pendant près de 6 ans avec ma femme un endroit où faire un studio d'enregistrement. Et Jarod, mon assistant qui est à côté, un jour m'appelle et il me dit « Voilà, j'ai vu une annonce à Colombes, faut que tu vois. » Et on s'est dit « Bon, ok, je vais sur Internet, je regarde. » Et en effet, c'était magnifique sur Internet. C'était un espèce de grand cube comme ça, de 12 mètres de long sur 8 mètres de large et qui faisait 4,50 mètres de hauteur sous plafond. Pas un pilier, pas un poteau, pas un porteur, pas une contrainte technique, rien. Et on s'est dit « Forcément, il y a un piège. » Donc on y est allé immédiatement. Et en effet, c'était ça. Donc on l'a acheté. On s'est dit, on va enfin pouvoir se faire le studio dont on a envie. On a fait appel à White Mark pour faire le design acoustique. Donc White Mark sont quand même les gens qui ont fait le studio de Peter Gabriel, Real World, qui ont fait le Hit Factory à New York, qui ont fait les studios de Sony Music, qui ont fait le studio de Puff Daddy, juste après le nôtre en fait. Et des dizaines de studios dans le monde. Voilà. L'équipe qui a construit, c'est leur équipe, qui s'appelle Oakwood Building Service, qui est une boîte anglaise aussi. Donc en fait, tout a été amené de Londres. Ils ont utilisé leurs matériaux de construction habituels, avec leurs équipes, leurs ouvriers sur place, suivant leur cahier des charges. Et donc on s'est fait faire un studio, on a acheté le local et on s'est fait faire un studio par ces garçons qui sont assez performants. Et du coup, on s'est fait un studio où on n'a mis aucune barrière. On est parti d'un budget de départ et au fur et à mesure, on a eu des options, mais pour que ce soit vraiment bien, très bien, voire ultime, à chaque fois, on a fait, on préfère que ce soit bien fait une bonne fois pour toutes plutôt que d'y revenir plus tard. Ou voilà, il y a des surprises, tant pis, on y fait face. Puis on trouvera toujours, si le studio est vraiment fait sans compromis, il y aura forcément des gens pour travailler dedans et tout se passera forcément bien après. Enfin, nous, on est plutôt des gens qui partent du principe que si on investit, et si on investit sans compter, un petit peu à la hauteur de la passion qu'on a pour notre métier, ben du coup, on a des retours équivalents. Pour l'instant, je touche du bois, ça s'est plutôt toujours passé comme ça. Donc on a fait, on s'est fait plaisir. Moi, ça me permet de continuer à faire ce dont j'ai besoin pour les radios et les télés. Donc de composer, de proposer des choses à mes interlocuteurs et de produire ces choses, par contre, à une autre échelle maintenant et à un autre niveau. Donc il y a forcément une grosse évolution dans les prestations proposées et dans la qualité du travail rendu, normal. Ça me permet aussi maintenant d'avoir deux autres activités qui sont de la prestation de studio d'enregistrement, tout à fait normal. Donc on travaille beaucoup avec Universal pour l'instant, on a travaillé beaucoup avec Mercury et avec Polydor sur des projets comme Cléopâtre pour Mercury. L'album du Gaufret, le dernier album du Gaufret, on a fait toutes les prises de voix chez nous. Donc les prises du Gaufret, de Francis Cabrel, de Laurent Voulzy, Alain Souchon, Jane Birkin, enfin voilà, toute une...
Carla Bruni.
Eddie Mitchell. On a raté Johnny Hallyday. Il a été enregistré à Los Angeles. Il y avait des grands moments de magie. Recevoir des artistes comme ça, dont certains me bercent depuis que je suis tout petit et que ma maman me mettait leur cassette des 60s dans la voiture quand on allait en vacances. Donc du coup, voilà, les découvrir en vrai et les recevoir était vraiment un grand, grand moment d'émotion. Puis ça nous permet de faire un retour dans la production musicale et donc de nous réoccuper d'artistes ou de groupes. Donc là, on vient de signer en production et en édition un groupe de rap de Toulouse. Qui s'appelle Empreinte Vocale, qui va bientôt monter à Paris faire les premiers enregistrements de leur album, qu'on est en train de travailler avec différents interlocuteurs sur la place de Paris spécialisés dans ce courant musical-là. Je travaille, moi, avec un jeune artiste de la Star Academy 7 qui s'appelle Jérémy Chaperon, qui est pour moi un très grand interprète, une voix exceptionnelle, un garçon avec une énergie comme je n'en ai pas vu depuis une bonne vingtaine d'années. Donc on est en train de travailler, parce que c'est quelqu'un qui par contre n'est pas auteur-compositeur, qui n'est vraiment qu'interprète. Donc on est en train de travailler à l'élaboration de son répertoire. On voit des auteurs et des compositeurs, on lui cherche des chansons, on est en train de travailler sur ça, on avance bien d'ailleurs. Et puis je travaille aussi avec un autre artiste de la même Star Academy, qui s'appelle Pierre Soupa, qui lui est dans un créneau artistique complètement différent, de chansons françaises, acoustiques... avec des textes, des choses très abouties, très intelligemment rédigées. Et donc voilà. Et donc là, on est en train de travailler. Là, l'album est plus avancé parce que les 12 titres, enfin les 13 titres même qui le composent, sont écrits. Donc on est en train de travailler la version acoustique de cet album, puisque là, il va commencer une tournée des petites salles pour faire un peu vivre le projet avant qu'on l'enregistre. Un album qui vit quand on l'enregistre et un artiste qui a une actualité scénique quand il est en studio, est un artiste qui répète. Et donc, un artiste qui répète ne donne pas les mêmes choses quand il est enregistré en studio. Et on s'est rendu compte aussi de ça, parce que ça fait quand même 20 ans que moi je fais ce métier, et ça fait 15 ou 16 ans qu'on est activement dans la composition, la production, la réalisation, l'arrangement de titres pour différentes personnes. J'ai pu me rendre compte que sur l'évolution dans le temps, en fait, ce qui dure vraiment, et là où on teste vraiment un album, c'est en live. Et donc, en fait, une fois que l'artiste se rend compte de ce qui marche ou pas dans une chanson, des passages qui fonctionnent ou pas, et de comment il doit les interpréter, une fois que cette partie-là du travail a été faite en live, on a beaucoup plus de facilité en studio, et on obtient un rendu beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fidèle de ce que l'interprète a à donner. Donc voilà, donc on travaille comme ça. On essaye de sur les productions, de les faire exister à la création et ensuite avant de les enregistrer. Pour avoir un disque qui représente quand même quelque chose de concret. Pas juste un artiste qui vient et qui enregistre sur un playback où des musiciens ont joué pour lui sur une tonalité préétablie et un tempo préétabli. Il faut que les chansons aient déjà vécu et que l'artiste ait déjà interprété et qu'il ait eu forcément un retour de cette interprétation et qu'il se soit déjà adapté. Et du coup, les performances qu'on obtient ne sont pas les mêmes.
Alors en fait, tu conseillerais plutôt aux musiciens et interprètes finalement de se présenter dans des concerts, de roder finalement leurs chansons et ensuite de les enregistrer.
Beaucoup, j'y crois beaucoup. Je pense que la musique qu'on aime, la musique dite d'avant, était faite comme ça. Était faite par des gens qui répétaient, ils n'avaient pas le choix. Enfin, je veux dire, quand on voit comment Elvis Presley travaillait chez lui, il écrivait une chanson, il la répétait avec ses musiciens pendant des semaines avant de l'enregistrer en studio. On est dans, ça, encore une fois, ça nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à la technique et à la technologie. C'est-à-dire que les choses nous permettant aujourd'hui d'enregistrer des éléments séparés et de les éditer, de les travailler, on ne se dit pas, tiens, plutôt que de travailler quelque chose pour que tout le monde soit sur un clic, si on faisait répéter les musiciens ensemble sur un même tempo, ça irait peut-être pas mal. Si on obtenait une performance qui ait une cohésion à la base, si les musiciens avaient l'habitude de travailler ensemble, peut-être que le morceau fonctionnerait, peut-être qu'il aurait une vie autre. C'est un peu dommage d'attendre qu'un album fonctionne, je trouve, pour laisser une chance à son interprète d'avoir des musiciens qui le répètent en studio avec lui pour ensuite aller en live. Et c'est là où, justement, on est parti d'un principe différent avec ma femme, qui était d'avoir une société d'édition et une société de production, parce que notre idée, c'était de pouvoir réunir des titres qu'on puisse donner aux interprètes ou des interprètes qu'on puisse mettre à la disposition de titres de compositeurs et d'auteurs pour pouvoir les faire vivre avant et travailler avec des musiciens qui croient à la même chose, qu'ils soient connus, très connus ou pas connus. Les gens qui viennent travailler sur les projets que nous allons enregistrer nous et que nous allons produire et défendre nous, ce sont des gens qui savent déjà qu'ils vont devoir travailler avec les artistes avant. En fait, nous, on se moque de devoir les payer pour des répétitions avant que le projet existe. C'est vraiment fondamental si on veut défendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité de l'artiste, de son message et son interprétation, c'est vraiment fondamental de lui permettre de travailler avec des musiciens avant. C'est quelqu'un qui fait de la musique, s'il travaille tout seul dans sa chambre, en écoutant un playback en boucle pendant des heures, la musique ne vivra pas. Le projet existe, mais c'est ce qu'on appelle une maquette. Avant de devenir un définitif, il faut que la musique ait vécu. Enfin, c'est notre idée en tout cas.
Comment tu réagirais si tu avais des musiciens, enfin des artistes qui arriveraient dans ton studio et justement qui n'ont pas répété, qui arrivent comme ça, avec l'air du temps? Comment tu réagirais dans ces cas-là?
Ah, mais c'est juste 100% des gens qui passent dans mon studio, à part mes productions. Le reste du temps, ça voilà. Ne se fait plus comme ça. Donc, comment je réagis? Je les laisse faire. Ils ont leur conception de la musique. Ils font les choses comme ils le veulent. Je pense qu'on ne peut pas se plaindre éternellement de ne pas vendre de disques si on ne met pas de contenu musical sur un disque. Voilà, c'est simple. C'est pas très compliqué. Je pense que les gens qui nous rabâchent toute la journée les oreilles avec « oui, vous comprenez, on ne vend plus de disques parce que le disque, ce n'est plus bien », se trompe. Je pense que quand moi j'étais petit, j'avais un lecteur de cassettes et que quand j'avais un disque qui me plaisait, j'en faisais 15 copies sur des cassettes. J'en mettais dans ma voiture, j'en mettais partout. Et ça tuait pas l'industrie du disque. J'achetais mes disques. Mais je les aimais, il y avait de la musique dessus, il y avait quelque chose à écouter. Aujourd'hui, on fait un disque, il y a un single, peut-être deux singles, et il y a un enchaînement de trucs qu'on a mis là pour faire un album très vite, parce qu'on avait un single ou deux singles et qu'on voulait surfer sur la vague. Et je pense qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas les acheter. On ne peut pas reprocher aux gens d'aller télécharger le titre ou les deux titres qui leur plaisent et de ne pas prendre l'album. On ne peut pas reprocher aux gens d'avoir la sensation de se faire escroquer quand ils ont craqué pour un artiste, qu'ils achètent l'album et qu'il n'y a que deux chansons qui tiennent la route. Il y a un moment où on est obligé de se poser des questions un peu plus profondes que pourquoi on n'est pas rentable. La rentabilité, c'est une chose, mais dans un domaine artistique, on est obligé à un moment de se dire, est-ce qu'on fait encore de l'artistique à la base? Est-ce que sur les fondamentaux, on ne s'est pas trompé? Après, je comprends qu'il faille des gens qui aient fait des écoles de commerce, qui aient fait du marketing, qui sachent défendre l'artiste dans le reste de ce qui est le monde aujourd'hui. Ça, c'est important. Mais sur les fondamentaux, sur ce qui est bien avant d'arriver à la concrétisation d'un produit et de sa défense, est-ce qu'on est toujours avec les bons interlocuteurs? La constatation qui me fait le plus mal au cœur aujourd'hui, c'est que quand on a un bon directeur artistique dans une maison de disques, ça change du tout au tout. Et que quand on a des bons projets qui marchent bien et qu'on regarde un petit peu, en général, on a un bon directeur artistique. Et on n'en a plus beaucoup, alors que c'est quand même la personne qui, en maison de disques, est le garant de ce qui est censé se passer dans une production. Le choix de l'artiste, la gestion de cet artiste. Moi, j'ai un très bon ami qui travaille aux éditions de Sony Music, qui pour moi est une oreille, une vraie oreille, un vrai repère. Et c'est une des dernières personnes que je connais qui signe des gens en édition pour les suivre dans leur évolution, en sachant que quand ils les signent, ils ne sont pas prêts et ils ne seront donc pas rentables, mais qui a envie de travailler, d'aider à leur développement, de leur fournir de la matière, de les mettre en contact avec des gens, de faire son travail. C'est quelqu'un qui aime l'artiste, c'est quelqu'un qui est dans les fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans la musique, qui aime les musiciens, qui aime la musique, qui aime les artistes et qui y consacre toute son énergie. Mais je pense que si on avait plus ça à la base sur les projets, et si on passait plus de temps à se faire plaisir, à faire de la bonne musique, plutôt qu'à gérer des budgets ou à essayer de savoir comment faire un produit qui sera le plus rentable possible, peut-être qu'on vendrait plus de disques. Bon, ça, après, c'est conjecture et divagation d'un pauvre fou. Mais je pense qu'on serait pas mal.
Ce qui est rassurant dans ce que tu dis, c'est de savoir qu'il y a encore des directeurs artistiques qui ont une ange de talent, qui font leur taf de direction artistique. Parce que dans beaucoup de cas, quand on a reçu pas mal d'ingénieurs du son ici autour de la table, il y en a beaucoup qui nous ont dit c'est des gens qui avant étaient commerciaux, qui n'ont pas d'oreille musicale, ils ne connaissent pas la musique, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a même qui nous ont dit, nous on a clôturé des projets entiers. C'est-à-dire qu'on a fait l'enregistrement, le mixage, on a envoyé les bandes au mastering et on n'a pas vu un directeur artistique. Donc, ce qui est rassurant dans ce que tu nous dis, c'est qu'il y en a encore quelques-uns. C'est sûrement pas une majorité, mais on sait qu'il y en a encore quelques-uns qui font leur taf, qui sont là et qui se bougent.
Je pensais comme eux. Il y a peu de temps, je pensais comme eux. Mais en fait, avec ce nouveau studio et les nouvelles personnes que j'ai vues passer, et les nouvelles rencontres que j'ai pu faire, ça fait longtemps que je n'avais pas retravaillé avec des maisons de disques, avec des gens d'un certain niveau comme ça dans la production et dans l'industrie du disque. Je me suis rendu compte. Il restait quelques personnes, en fait. Enfin, moi, je pensais qu'il n'y en avait plus, qu'il n'y avait plus que des gens qui sortaient d'école de commerce et qui venaient nous expliquer ce qui était bien ou pas artistiquement. Mais en fait, non, il en reste quelques-uns. Ils sont bien cachés, ils travaillent tranquilles, voilà, mais ils sont là.
Mais ils arrivent à se faire entendre, justement,
oui,
par rapport au monde.
C'est bien qu'on les laisse travailler.
Oui, mais voilà, l'avantage, c'est que comme miraculeux. Ils sont tranquilles dans leurs endroits, ils travaillent tranquilles et ils font leur boulot. Et quand ils s'occupent d'un artiste, ils s'en occupent vraiment bien et ils arrivent ensuite, du coup, comme ce sont un peu des gens qu'on n'ose pas déranger et que quand ils se réveillent, on écoute ce qu'ils ont à dire, ce sont des gens dont la parole est écoutée et qui ont une vraie légitimité à défendre les projets dont ils s'occupent. Donc après, ils sont suivis. C'est vrai aussi, j'ai pu voir sur certains projets qui ont été enregistrés au studio que c'est parfois bien que le directeur artistique ne soit pas là. C'est vrai qu'il y a des projets qui s'enregistrent et où le directeur artistique ne vient pas. Mais en fait, quand justement le travail a été correctement fait en amont, quand il a fait son travail avant, qu'il a écouté les maquettes, qu'il en a discuté avec l'artiste, qu'ils ont fait les modifications nécessaires, qu'ils ont travaillé avec lui en collaboration avec les auteurs et les compositeurs, ou avec l'arrangeur ou avec le réalisateur, et qu'en amont, il a fait son boulot, à la limite, si tout se passe bien avec le réalisateur de l'album et qu'ils sont en confiance...
Une fois que c'est sur les rails...
Voilà, une fois qu'ils sont sur les rails, qu'ils sont d'accord sur la direction, et que... Au fur et à mesure, ils reçoivent quand même tous des MP3 de ce qui se développe en studio, de ce qui s'enregistre et compagnie, qui voient que c'est dans ce qu'ils avaient prévu. tout va bien. Donc bon, la présence d'un directeur artistique en studio, c'est pas forcément une obligation. Je pense que le truc vraiment le plus important, c'est au moins qu'il fasse le vrai travail de recherche de l'artiste et de développement de l'artiste et de son projet en amont. Moi, je vois aujourd'hui des gens commencent à m'appeler parce que j'ai cette philosophie-là. Ce qui se passe, c'est que des gens qui passent au studio et qui font d'autres projets commencent à m'appeler pour ça, en me demandant si je veux bien rencontrer un artiste, parce que pour l'instant, ça va pas. Mais on sent qu'il y aurait quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc moi, je suis toujours, toujours très ouvert. Demain midi, je mange avec quelqu'un qui vient me présenter son projet. Elle est dans un cours d'écriture. Elle a été repérée. On sent que, mais elle n'est pas produite. Mais il faudrait la produire. Mais on ne sait pas, machin. Et je la vois demain midi avec la personne qui s'occupe d'elle et qui essaye de faire en sorte que voilà, qu'elle ne tombe pas dans les différents pièges, les différents filets tendus à droite et à gauche. Et à partir de là, je vais écouter ce qu'elle fait, parler un petit peu avec elle et voir si il y a matière à développer quelque chose ou pas, comment, dans quel sens, voilà. Donc il y a encore des gens qui se battent dans le bon sens. Et j'ai même tendance à dire qu'en ce moment, on commence à être nombreux. Ouais. Petit à petit, mais ça fait son chemin. Et puis, nouvelle technologie ou pas, rien n'empêche quelqu'un. Moi, j'ai un studio qui est sur une base de Pro Tools, donc je suis entièrement numérique, avec une icône, donc une grosse décontrôle, une espèce de souris géante pour Pro Tools, avec des faders. Y a un transport dessus. Rien n'empêche quelqu'un d'arrêter de se servir de la souris et de se servir à l'ancienne d'un transport, de faire stop, de dire au chanteur « Excuse-moi, là, tu es bleu. » Alors maintenant, c'est une insulte. Il y a pire comme insulte. Hein. Rien n'empêche de dire « Excuse-moi, là, t'es un peu en dessous, t'es un peu au-dessus. On reprend, c'était très bien. On va faire mieux la fois d'après. » Donc voilà, je pense que on a tous les outils à notre disposition, mais on peut toujours s'en servir dans le sens qu'on a envie de donner à une production. Et je sais que là, justement, pour Pierre, dont je vous parlais tout à l'heure, on a une idée sur ce projet. On aimerait faire quelque chose qui soit très, très 50s dans la couleur, très années 50. Et ça fait déjà une semaine et demie, qu'en tout cas, moi, je travaille sur quelles sont les techniques d'enregistrement de cette époque, quels sont les micros utilisés, sur certaines sessions de Otis Redding, qui était l'ingénieur du son, qu'est-ce qu'il a fait, sur certaines sessions de Diana Ross, qui était le percussionniste, qui était le batteur, quel était le type de batterie utilisée, comment ils ont miqué, etc., etc. Il y a un moment, même si la technologie évolue, rien ne nous empêche, je dirais, d'avoir un minimum de culture technique. Et voilà, là, on aimerait avoir un parti pris en se disant, même sur Pro Tools, on va avoir que 24 pistes, la batterie, on va avoir que 3 micros. Les micros, ça va essentiellement être du C12, du 47, de l'ELAM et du ruban, de l'AEA, point barre. Et on va essayer de faire ça exactement dans les conditions de l'époque. C'est quelqu'un qui a une voix qui s'y prête, qui a une voix qui fait voix de chanteur black années 50 sur de la musique de variété acoustique française et le parti pris est intéressant, on a envie de faire ça, les moyens on les a, la technologie on l'a, bien sûr on pourrait faire un truc en 152 milliards de pistes avec des trucs dans tous les sens, mais si on a envie de s'amuser, si on a envie de faire des choses différentes, on peut. Ce qui est marrant, c'est que quand Amy Winehouse le fait en Angleterre, tout le monde trouve ça génial et elle vend des millions de disques et on nous dit pas « Ah, c'est la crise !» Voilà, mais ce sont des gens qui se sont amusés, qui avaient des chansons absolument impeccables, d'une efficacité redoutable, et qu'elles soient chantées par Amy Winehouse, enfin moi je les imagine très très bien, chantées par Diana Ross, ou chantées par Otis Redding, ou chantées par Marvin Gaye, ça marche très bien. Ouais, ce sont des chansons.
Ce sont des sacrés artistes aussi.
C'est clair.
C'est pas Paulette Ducoin.
Ah oui, ça c'est sûr, voilà. Il faut dépasser aussi, voilà, moi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, on travaille avec 3 artistes, il y en a 2 qui sont des artistes qu'on a rencontrés par Mercury, qui sont 2 candidats de la Star Academy 7, un des 2, on lui travaille le projet dont on vient de parler, qui aujourd'hui se dit, tiens, on sort de la Starac, ah ben non, on va lui faire un projet Otis Redding, parce que ses chansons sont des pures chansons de soul américaine des années 50. Voilà, on se dit Starac, on va lui faire un album boum boum pouet pouet, avec de la guitare acoustique, le mec il est gentil, on va lui faire ça. Il y a un moment, il faut écouter ce qu'un artiste a à dire. Il faut prendre la peine de se poser, de lui demander, voilà, toi, tu aimerais faire quoi? Et puis, tes chansons, ce qu'on va faire, c'est que tu ne vas pas les maqueter, tu vas les enregistrer à la guitare avec ton compositeur. On va réécouter ce qu'elles ont dedans. Bon, il se trouve que, par exemple, ce garçon-là, moi, je ne connaissais pas du tout son histoire. Je l'ai rencontré, il m'a fait écouter son projet, je l'ai écouté deux fois, trois fois. La troisième fois, j'ai découvert qu'il était fan. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, voilà, on l'a écouté, je l'ai beaucoup écouté moi aussi en plus. Voilà, j'aimerais te proposer ça. Nous, on a l'idée que ça pourrait être quelque chose qui, comme ça, très années 50, très années 60, black américain, dans cette voie-là. Et il me dit, ah, c'est ma musique de prédilection, c'est ce que j'écoute tout le temps. On n'en avait jamais parlé. Donc, c'est contenu dans sa musique. C'est-à-dire que dans sa musique, je suis arrivé à trouver ça. C'est que c'était dedans, c'est que ce garçon est ça. Bon, ben voilà, il faut prendre le temps.
Et il chante en anglais ?
Non, il chante en français. Il chante en français sur des mélodies qui sont parfaitement dans cette époque, qui fonctionnent très bien sur ça, et sans qu'il se soit forcé du tout. Et par contre, avec des textes qui fonctionnent aussi très bien en français. Comme quoi, c'est possible.
Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez un artiste quand il vient dans ton studio ?
Je dirais le manque de respect pour les lieux. Quelqu'un qui va s'amuser à poser ses pieds sur mes meubles ou sur ma console, ou voilà. À une époque, j'aurais dit la prétention ou la suffisance, mais je me suis rendu compte il y a peu de temps que c'était une arme pour un chanteur et pour un interprète. Donc en fait, je préfère qu'ils aient un ego surdimensionné. Je me suis rendu compte qu'une fois qu'on prend ce paramètre en compte et qu'on le gère correctement et qu'on s'en sert même pour obtenir ce dont on a besoin, c'est vraiment quelque chose de très positif. Par contre, ouais, le manque de respect, je trouve ça insupportable. Il y a des gens qui sont au plus haut et ces gens-là, quand on les rencontre, on se rend compte qu'ils sont absolument et strictement juste d'une simplicité à toute épreuve. Ils ont l'ego de savoir que ce sont des grands chanteurs, des stars, des vedettes, tout ce que vous voulez. Mais l'être humain est d'une simplicité absolue. C'est quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il est, qui n'a pas besoin d'écraser les autres autour de lui, et qui montre du respect aux gens sans avoir à faire d'efforts. Et par contre, ceux qui ont soit à faire des efforts, soit qui manquent de respect, je trouve ça insupportable. Insupportable. Après, il y a la prétention de l'entourage des artistes. Alors là, ça, c'est aussi fantastique.
C'est souvent là le gros problème aussi.
C'est très difficile à gérer, mais bon, on fait avec. Au bout d'un moment, on a l'habitude.
J'ai appris en regardant les sites sur Internet sur toi que tu étais effectivement directeur artistique. Comment se passe justement cette position de directeur artistique quand tu ne peux pas le jouer face à un autre directeur artistique et un artiste ? Tu n'as pas parfois des blocages ? Comment ça se passe ?
C'est probablement la partie la plus délicate à gérer. Et en fait, je me rends compte sur le long terme que l'idéal, c'est de ne pas le gérer. C'est-à-dire que j'ai un surnom, on m'appelle l'ours. Et avant, on m'appelait l'ours de la cave, puisque le studio que j'avais à Villiers était dans une cave. J'ai la réputation de dire ce que j'ai à dire, très gentiment, parce que je ne m'énerve pas souvent. Mais voilà, je pense que les choses peuvent être dites très simplement. Et après, avec le temps, j'ai appris à accepter qu'elle soit écoutée ou pas. Voilà. C'est ça, en fait, la grosse différence. Rien ne sert de tergiverser. Enfin, moi, je pense que tergiverser, c'est perdre du temps. Chercher des moyens délicats de dire des choses évidentes, c'est perdre du temps. On a le droit d'avoir des avis différents. Et donc, comme on a le droit d'avoir des avis différents, on a le droit de les exprimer. Surtout quand on me demande de travailler sur quelque chose, voilà, on me demande de travailler dessus pour donner un avis, une opinion, une perspective différente ou un éclairage différent à celui qui y est déjà. Donc si c'est pour aller sur un espèce de grand consensus où tout va bien et ça sert à rien de me demander ou de faire appel à moi, alors parfois je vais arriver sur un projet et je serai exactement du même avis que tous les gens qui y sont déjà, mais quand j'ai un avis différent, je l'exprime. Ceci dit, la gestion du paradoxe des multidécisionnaires, j'ai envie de dire, s'efface assez rapidement, parce que moi, je n'ai qu'un interlocuteur, toujours qu'un seul, c'est l'artiste. Donc, soit ce que je lui propose l'intéresse, dans ce cas-là, ça vaut la peine de travailler, même si c'est contre l'avis des autres, et dans ce cas-là, je prends sur moi de le travailler pour lui, et puis on voit ce que ça donne, on fait des maquettes, on retravaille un style d'arrangement, on essaye une modification sur une structure, et puis il la présente, et puis on voit comment ça se passe après. Si lui adhère pas, ça sert à rien que je m'entête, de toutes les façons. La façon de gérer ça, c'est en tout cas pour moi d'avoir un seul interlocuteur, l'artiste, et en fonction de ce qu'il veut, après on gère le reste. Par contre, c'est vrai que je compte pas... Enfin, c'est un métier, c'est la passion, c'est la passion de ma vie. Maintenant, j'ai une femme et des enfants, donc j'ai une autre très grande basure dans ma vie. Hein, mais voilà, mais la musique, c'est ce qui coule dans mes veines, je crois, hein, malheureusement. donc, à partir de là, je ne compte pas mes efforts, je ne compte pas mes heures, et je me fous d'avoir développé quelque chose qui, finalement, n'est pas pris. Si au moins l'artiste, lui, a eu plaisir à le faire, et ça l'a conforté dans une idée où ça lui a permis de faire le point sur quelque chose, c'était utile. Donc, je pense qu'on ne perd jamais de temps. Perd du temps si on ne fait rien. Mais si on fait quelque chose, et si on propose quelque chose, et qu'on avance dans un sens, on ne perd jamais de temps, même si ce n'est pas exploité à l'arrivée. De toutes les façons, on apprend toujours, on peut toujours tirer du bon de ce qu'on a fait, même quand à l'arrivée, c'est pas ce qui reste.
Il est très philosophe, notre Karim.
C'est pas faux.
Bien, je voudrais quand même qu'on passe sur Charisme Prod, qui est à Colombes et qui est ta maison de production.
Oui.
Donc, tu travailles spécialement sur des musiques, c'est des réalisations de bandes-son pour la télévision, pour la publicité, c'est ça ?
C'est ça. En fait, quand je suis arrivé avenue de Villiers, c'était grâce à un ami qui est la personne d'ailleurs grâce à laquelle je fais toujours ce métier. Parce qu'en fait, j'ai commencé par produire un album au début des années 90 qui m'a coûté tous les sous que j'avais mis de côté quand j'étais petit. et que je n'ai pas placé en maison de disques parce que j'avais fait confiance aux gens avec qui je travaillais et que j'aurais pas dû. Voilà, donc j'avais pas signé de contrat, on avait travaillé dans la confiance mutuelle et je me suis fait avoir, c'est pas bien grave. Et à ce moment-là, j'ai failli abandonner. Et le bassiste qui avait travaillé pour moi cet album-là, qui est Dominique Bertram, qui est un ami depuis 20 ans, vraiment quelqu'un de fantastique avec qui j'adore travailler, c'est mon père spirituel dans ce métier, je dirais, m'a dit si tu abandonnais, ça serait dommage parce que tu as du talent. Et je me suis dit, si lui le dit, dans ce cas-là, ça vaut probablement la peine que je m'entête. Donc je n'ai pas laissé tomber, j'ai travaillé, j'ai remonté la pente, j'ai payé mes dettes, je me suis fait une carrière de programmeur et d'arrangeur. Je travaillais avec des petits labels qui avaient besoin d'arrangements pour leurs artistes. J'ai compté il n'y a pas très longtemps avec ma femme, j'ai fait presque 1000 arrangements.
Ouf, oui.
Ça fait un paquet. Des gens qui venaient nous voir avec leurs maquettes sur des cassettes et qui voulaient... que ça soit fait à la Michael Jackson, à la Patrick Bruel, à la machin, à la bidule. Et donc, je travaillais, j'arrangeais et j'orchestrais 2 à 3 titres par semaine que je venais vider en studio à l'époque sur une bande 24 et je repartais et voilà, j'allais de projet en projet. Voilà, donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis, un jour, Dominique m'a appelé parce que quelqu'un faisait une séance de publicité à Macadam Transfer. Était un studio de publicité très connu, tenu par Marc Miller. Et le programmeur habituel de Marc Miller ne pouvait pas venir, était dans le sud de la France. Et il m'a dit, écoute, franchement, faut que tu y ailles. Et il avait fait mon éloge à ce monsieur. Il m'a dit, je connais quelqu'un qui est très fort sur Pro Tools et qui a toutes les banques de son de la Terre. Donc si tu l'appelles, il peut remplacer ton programmeur, il n'y a aucun souci. En fait, j'ai fait cette séance de publicité-là et ça s'est très bien passé. Et ça s'est tellement bien passé que... On s'est vraiment très bien entendu avec Marc, qu'on a fait beaucoup de projets ensemble. Société Générale, Swiffer, Ford, Étince. Enfin, on a enchaîné un paquet de musiques de publicité pour des grandes marques, des musiques de groupe. Et je suis la première personne à qui il a accepté de louer sa cave pour que je puisse faire mon studio d'enregistrement. Ça faisait des années que bien des interlocuteurs lui demandaient. Et moi, j'y ai eu droit. Donc voilà, donc du coup, j'ai loué sa cave. Et j'ai fait ce premier studio. J'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Et son assistant de l'époque, c'est Van Bolikian, est devenu en fait mon partenaire parce que lui avait des contacts à la télé. Et il avait des contacts qui nous ont permis de faire ensemble des musiques d'émissions de jeux télé. Donc on a fait la musique des Amours sur France 2, qui est à l'antenne depuis, c'est la 8e année cette année. On a fait la musique de la dernière année du Big Deal. On a fait la musique d'une émission sur France 2 qui s'appelle Carbone 14, qui est restée à l'écran 6 mois, qui était présentée par Ness. Donc la musique des génériques, bien sûr, début fin, et puis toutes les musiques intermédiaires, les musiques d'illustration d'émissions de jeu. On a fait la musique d'une émission de caméra cachée aussi sur France 2, qui s'appelle Bienvenue chez les fous. On a fait aussi 2-3 musiques pour le câble. On a fait des musiques pour Zone Rouge. Donc voilà, on a enchaîné un petit peu tout ça. Puis on a été contacté par des gens qui avaient des partenariats avec des régies publicitaires pour de l'audiotel, donc pour tous les produits pour téléphone portable. Et on s'est mis à être l'interlocuteur privilégié de ces gens-là pendant 5 dernières années, avec des passages en radio colossaux. Et donc le tout cumulé, ça m'a permis de quitter l'avenue de Villiers serein, d'acheter ce local avec ma femme et de faire ce studio d'enregistrement, qui est un peu un grand délire de psychopathe. Voilà, voilà, voilà.
Pour l'avoir vu, c'est un modèle du genre.
Merci.
C'est pas le plus grand qu'on ait vu.
Ah non.
C'est beau et raffiné et ça marche.
Ah ouais, c'est ça le truc, c'est ça. C'est que là.
Ça marche très très bien.
Quelles que soient les sessions qu'on y accueille, c'est ça que les gens aiment. C'est que les machines qui sont sur la liste sont toutes là et qu'elles marchent toutes et qu'elles ont toutes été choisies.
Oui, les machines et l'acoustique. Hein, l'endroit lui-même fonctionne. Quoi.
Ouais. C'est pas grand. C'est sûr. C'est pas d'avoue. C'est pas méga. Par contre, dans sa catégorie, sans aucune prétention, c'est juste imbattable. La catégorie des studios avec une salle de prise de 40-45 mètres carrés. Voilà, j'ai le seul studio qui est conçu à la base pour être un studio d'enregistrement et réalisé par un vrai acousticien et son équipe de constructeurs. Et c'est pas un truc fait de briques et de brocs, c'est pas un truc fait dans les années 60, plus ou moins remis au goût du jour récemment. Voilà, j'ai eu envie une fois au moins qu'il y ait un truc vraiment bien fait du début à la fin, quelque chose qui soit actuel dans le design et dans l'acoustique en France. On avait besoin d'un, j'ai essayé. Moi, je pense que c'est pas mal. Honnêtement, je pense qu'il est réussi. De ce point de vue-là, il est réussi. Là, on a accueilli l'enregistrement de l'album de Stanislas, qui sort bientôt, qui a été donc enregistré et mixé au studio, à part une séance, une journée de cordes et d'instruments symphoniques qui, elle, a eu lieu à Guillaume Tell. C'est normal. Là, par contre, j'avoue humblement, la taille ne permet pas de le faire chez nous. Mais voilà, je pense que ce qui est sur les bandes est vraiment bien, vraiment de qualité et que... Voilà, ça a été pour nous la chance d'avoir pour une première fois un projet entièrement produit de début à la fin au studio et de voir un petit peu comment sonnaient justement toutes les décisions qu'on avait prises ces dernières années sur les préamplis, le câblage, l'acoustique, les designers, les enceintes. Voilà, on a pu tout mettre à l'épreuve sur un projet. Et là, personnellement, je suis très content du résultat. Justin, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un artiste, mais d'un talent juste affolant.
Stanislas, qui est un garçon qui sort du CNSM, qui donc a quand même de sérieuses références au niveau de la composition et autres. Comment s'est passée cette rencontre avec toi?
Ah, alors ça, c'est différent. En fait, je travaille avec un ingénieur du son, Pete, Stéphane Lévy, et je travaille avec lui déjà depuis l'époque où j'étais avenue de Villiers. Et en fait, il faut savoir que Stan a un frère qui fait aussi de la musique, qui compose aussi, et qui a produit, qui s'est autoproduit un album il y a quelques années. Et cet album, il a été mixé par Stéphane dans mon ancien studio. Et donc, c'est Stanislas qui réalisait l'album de son frère. Et donc, je l'ai vu pour la première fois, grâce à Stéphane, avenue de Villiers, et c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, Stanislas, après, est revenu au studio par Mercury parce qu'il a travaillé, il a écrit des chansons pour Cléopâtre, la comédie musicale. Donc là, il est venu voir le nouveau studio dont Stéphane lui avait parlé, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de se croiser. Et quand il l'a vu, si tu veux, comme moi, je suis compositeur et que c'est un studio que j'ai fait faire vraiment pour pouvoir... La régie est conçue d'une façon un peu spéciale, c'est-à-dire qu'elle est conçue en trois plans. C'est-à-dire que je peux en même temps, dans la même régie, même si je suis tout seul, être compositeur et ingénieur du son. Je peux être à la console et avoir une fonction d'ingénieur du son, mais où je peux diriger tout le reste de l'équipement. Mais je peux être, il y a une marche avec un canapé et tout un meuble dans lequel mes claviers de contrôle sont intégrés. Et à partir du moment où je suis à cette position-là, j'ai quand même le contrôle de tout le reste du studio. Je peux quand même contrôler ma table de mixage, mes niveaux. Voilà, j'ai des doubles commandes partout. Quand Stanislas est venu pour réaliser le titre pour Cléopâtre, on a passé un peu de temps au studio, il en a profité pour voir cette configuration-là, et lui, par rapport à ce qu'il voulait faire de son album, au fait qu'il voulait en produire une partie, mais aussi finir de l'arranger en studio, et quand il a vu la configuration des lieux, il m'a dit « Est-ce que je peux venir ? Est-ce que je peux venir là ?» Parce qu'il s'est bien rendu compte que c'était au départ mon studio, que je le loue de temps en temps pour des choses qui vraiment m'intéressent, m'interpellent ou que j'aime, qui n'a pas vocation au départ à être un studio commercial. Donc il m'a dit, voilà, est-ce que je peux venir? Est-ce que tu me laisserais venir? Je lui ai dit, mais tu es fou, juste, bien sûr. Pour des projets comme le sien, mais bien sûr, c'est une évidence. J'ai été mais très content qu'il vienne. Et j'étais vraiment très heureux de l'accueillir. C'est quelqu'un qui a un talent, mais juste de folie, qui chante vraiment bien, un excellent interprète. Il a des textes juste superbes, des musiques fabuleuses. Enfin, son dernier album, je suis bon, c'est sûr, il a été enregistré, donc j'ai eu l'occasion de l'écouter. Vous écouterez Ondine dès que l'album sera sorti, vous m'en direz des nouvelles. Il a des chansons fabuleuses. Des orchestrations fabuleuses, mais on le savait, hein. C'est un orchestrateur connu, voilà. Mais c'était bien aussi, parce que du coup, j'ai pu voir des instruments au studio, et enregistrer des instruments que je n'avais jamais enregistrés, et puis voir des choses, voilà, de la harpe celtique sur un album de variété, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu. Des cordes, des cuivres... Et je suis content que ce genre d'album existe. Je suis content que des albums différents, de qualité, avec du contenu, existe. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a une telle connaissance de la musique qu'il peut s'en servir pour faire ce qu'il veut, mais on sent bien que le fait qu'il fasse de la variété lui a desservi dans les cercles de musique classique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est classé par ses maîtres ou par certaines personnes avec qui il travaille pourtant pour toutes ses activités de directeur d'orchestre, de professeur. Il est un peu classé dans la catégorie des chanteurs de variété. Il a vendu son âme au diable. Parfois, il en parle.
C'est amusant qu'en France, on n'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire plusieurs choses.
C'est affolant.
C'est le problème partout. Hein.
Ouais, mais c'est une espèce d'étiquetage obligatoire.
Nous, on serait contents de l'accueillir, en tout cas.
Voilà, tu pourrais lui demander. Le mot. Oui, je vais lui demander.
Nous, on l'aime bien. On aime bien le bonhomme. Et on ce aime bien fait, le bonhomme. Donc, on serait assez contents
de le recevoir. De l'avoir au-delà dans des clichés. Une émission de télévision où ça devait être ceux qui étaient disques d'or. Et donc, il passait tous ces artistes qui avaient été disques d'or dans l'année 2008, un truc comme ça. Et il devait être 1h du matin et il apparaît. C'était une espèce d'ange qui arrivait d'un seul coup. Et moi, j'étais en train de bosser sur mon ordinateur, en train de me dire, mon Dieu, que tout est mauvais et tout. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de particulier là. Et je me suis arrêtée de travailler et j'ai été l'écouter. J'ai été l'écouter et le regarder parce que je me suis dit, ce bonhomme-là, ouais, ça marche.
Non, mais c'est clair. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu... on a eu des grandes discussions sur la production, sur les artistes, sur plein de choses. Et on en est revenu au même. Les voix qu'il a fait sur ce nouvel album, il a eu l'occasion de tester ses chansons sur la tournée du premier album, il a eu l'occasion de développer certaines choses. Il a travaillé avec du public. Il était le premier à voir que ça avait totalement changé et développé sa capacité d'interprétation au studio. Ça lui a donné une dimension et ça lui a donné un rapport à ce qu'il avait envie de défendre quand il enregistrait, qui était complètement différent.
Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on parlait un peu du parasitage, de l'entourage des artistes, on parlait un petit peu de la démarche créatrice en studio. Moi, pour avoir l'occasion de passer plusieurs fois te voir pendant les séances de Stanislas, j'ai été à chaque fois étonné de voir l'absence des parasites qu'on aurait pu penser. C'est-à-dire qu'il y avait Stanislas, Stéphane, l'ingénieur du son, Pierre Jaconelli qui était là, et toi. Ouais. J'ai pas vu de gens de maison de 10, de manager ou de machin qui étaient là pour, entre guillemets, casser les bonbons et mettre des freins ou des barrières.
Il y a eu quelques écoutes, en fin de production. Mais ça, c'est obligatoire, mais voilà, mais ce sont des choses qui ont été parfaitement intégrées au planning, parfaitement gérées. Et voilà.
Mais au quotidien, vous étiez vraiment créativement puis c'était une équipe, libre, on va dire.
C'était une équipe de gens qui se connaissaient, qui étaient en confiance. Moi, j'ai travaillé avec Polydor. Sur ce projet, c'est le premier projet qu'on fait ensemble sur l'intégralité. Et je défends la même chose quand je reçois quelqu'un qui loue le studio en tant que client que quand je suis producteur. C'est-à-dire que Stan et Pierre ont eu progressivement des demandes. J'ai répondu à toutes les demandes. Je préfère répondre aux demandes d'un artiste, voir avec la maison de disque après si c'est gérable par rapport au budget, par rapport au reste. Mais je ne m'imagine pas de dire « Stop, on appelle, on voit si ça peut passer au budget, machin. » Et après, tout ça, ce sont des choses qui cassent le développement d'un projet. Donc je préfère, moi, répondre positivement à tout, voir après si ça passe ou pas, mais au moins, le projet qui est défendu, qui est enregistré dans mon studio, on ne peut pas dire après, ah oui, mais il y a eu ci, ah oui, mais il y a eu ça, qui est venu nous gêner dans la création. Dans, tiens, là, on avait envie de s'amuser, on avait envie de ça, on l'a fait, est-ce que c'était bien ou pas ? Oui. Le reste n'intervient pas. Et c'est ça qui est très important. C'est la première fois que je bossais avec Polydor sur un projet aussi complexe que celui-là et aussi long et sur 45 jours. Et c'est une maison de disques admirable. C'est une maison de disques qui a suivi derrière après et qui m'a dit « Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. » Disons c'était la bonne démarche.
En 2009, il n'y a pas beaucoup de projets, à mon avis, dans l'année, que ce soit chez Polydor ou ailleurs, qui se seront faits dans ces conditions-là.
Je crois qu'il y en a de moins en moins, mais je crois qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la qualité de l'artiste qui fait la différence. C'est-à-dire que là, ils savent qu'ils ont une perle, qu'ils ont quelqu'un qui va forcément rendre un travail dont la qualité intrinsèque sera vraiment de valeur.
C'est pas parce qu'aussi il a un énorme bagage musical derrière, de travail au conservatoire et autres, qui font qu'ils n'osent pas trop, on va dire, se la ramener.
je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils lui font confiance en studio, en tout cas. Puis il a beaucoup réalisé de choses pour beaucoup de gens. Il a travaillé pour Cléopâtre, mais il a travaillé pour Pascal Obispo pendant des années avant. Il a fait des orchestrations, il a fait des réalisations. Enfin, c'est quelqu'un qui a un gros bagage. Mais je pense que les quelques fois où le PDG de Polydor est venu, ou Alain Artaud est venu, il est venu voir Stanislas, il n'est pas venu...
Contrôler.
Voilà, il n'est pas venu contrôler, et il est venu écouter des chansons auxquelles il a totalement adhéré en maquette. Et il est venu voir si c'était à la hauteur de ses espérances, si ça allait dans le sens de ce qu'il voulait. Et il a été immédiatement rassuré. À la première écoute en cours de projet, enfin à mi-projet, juste après que les premières prises instrumentales aient été finies, quand il est venu écouter les premières mises à plat et les premiers dérochages, il a tout de suite su qu'il était là où il avait envie d'être et que Stanislas avait entièrement répondu à ses attentes. Voilà, donc c'est aussi un espèce d'équilibre comme ça où tu sais tellement que le garçon a du talent que bon, après il faut toujours vérifier, toujours, ne serait-ce que pour qu'ils sachent que tu leur portes intérêt. Ils savent qu'ils ont un artiste qui va travailler et Pierre est un réalisateur impressionnant. C'est quelqu'un qui va écouter une prise de batterie et qui va la choisir parce qu'elle a une émotion. Mmh. Voilà. Et quand quelqu'un va lui dire « pourrais pas la caler un peu ?» Il fait « bien sûr, est-ce qu'on peut faire ce qu'on peut mettre une boîte à rythme aussi, si tu veux. Hein ?» Quelqu'un qui prend le risque de choisir ça, bien sûr avec Stanislas, ils sont d'accord, ils sont dans la même énergie, dans la même... Mais quelqu'un qui prend le risque de se dire sur une production « tiens, on va faire ça. » Et puis ben, une fois que cette décision-là est prise, forcément tout ce qui va se mettre dessus, bah, sera sur cette décision-là, donc on ne pourra pas revenir en arrière. Une fois qu'on aura fait les voix, il faudra qu'elles soient sur ce groove-là, les guitares, il faudra qu'elles soient sur ce groove-là. Voilà, il y a de vraies décisions dans une vraie direction. Bah tiens, sur ce projet-là, on ne va pas s'amuser à faire des découpages partout, on va chercher des prises, on va plutôt travailler avec les musiciens, on va faire en sorte qu'il y ait ce qu'on veut sur les bandes. Voilà, c'est une espèce de philosophie, comme on disait tout à l'heure, mais à la base, du coup, je trouve que ça s'entend, et ça se ressent, forcément.
Alors ma question récurrente, un ingénieur du son, compositeur, est-ce que tu cherches à avoir une signature au niveau de tes enregistrements ?
Alors les gens qui me connaissent reconnaissent mon travail. Je ne cherche pas, je ne cherche pas du tout. Mais les gens qui connaissent mon travail sont capables de le reconnaître sans faire d'effort. C'est involontaire, c'est directement lié aux deux accessoires que j'ai sur le côté de la tête. J'ai des oreilles qui ont un espèce de calibrage d'un certain type de son, d'un certain type de mix, d'un certain type d'équilibre, d'une recherche de certaines choses qui me poussent à, quels que soient les genres de musique dans lesquels je vagabonde, parce que avec la musique de publicité, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai vraiment fait du classique, de la techno, de la dance, de la pop, du folk, enfin... Je passais par vraiment tous les genres en musique d'illustration, en tout cas sonore. Et c'est vrai que bien que les orchestrations, les types de sons changent, le résultat final a toujours à peu près la même couleur. Enfin, a toujours une couleur constante dans la façon dont j'arrange, dans la façon dont je vais faire mes équilibres de son, dans les orchestrations, dans ce que je vais choisir. Et je pense que c'est vraiment lié à une espèce de relation entre mes oreilles et ce qu'elles aiment entendre et mes goûts. De rapport comme ça qui fait qu'il y a un fil conducteur dans ce que je fais, mais sans que je le cherche. Ça vient d'une capacité, d'un vrai désir et d'une vraie recherche que j'ai à continuer déjà à mixer en mono. Donc je vérifie mes équilibres et mes mix en mono constamment. Bien qu'on soit à l'époque du stéréo, même en radio, et même du 5-1 et du 7-1, je continue à penser que quand quelque chose est cohérent et correctement mixé en mono et correctement pris, et ensuite mixé en mono, l'éclater en stéréo ou en 5-1, c'est très facile. Si ça ne fonctionne pas en mono, le reste ne sert qu'à cacher ce qui ne fonctionne pas. Je suis quelqu'un qui a un vrai goût pour les équilibres. C'est-à-dire que j'aime que les morceaux sur lesquels je travaille aient vraiment un équilibre de haut en bas du spectre, qui est une espèce d'harmonie comme ça, avec une envie de tout entendre. Donc du coup, ça m'amène toujours à peu près la même chose, que je suppose que moi j'aime bien tout entendre, mais toujours de la toujours avec des choses cohérentes. Donc c'est vrai que ce soit de la musique ethnique avec des instruments indiens ou que ce soit une pièce, une fausse pièce classique avec un quatuor, il y aura toujours quelque chose de commun. Il y aura toujours...
Une dernière question,
Christophe. La dernière question. Depuis tout à l'heure, tu dis beaucoup « nous » et « on » en parlant de toi et de ta femme.
Oui.
Je sais que c'est important pour toi. Est-ce qu'elle a une formation de musicienne ou est-ce que c'est juste un soutien qui...
Ah non, ce n'est pas juste un soutien. Déjà, c'est une chanteuse.
D'accord.
C'est une chanteuse classique à la base et de variété ensuite. C'est une pianiste, une grande capacité artistique, une grande sensibilité. Et c'est quelqu'un qui a exactement eu la même révélation que moi quand on a décidé de faire le studio. C'est-à-dire que soit on se dit qu'on gagne des sous, qu'on prend notre retraite à 35 ans ou à 38 ans et qu'on vit avec la musique de publicité qui ne demande pas d'efforts, soit on se dit qu'il y a un moment, il faut rendre à la musique ce qu'elle nous donne et il faut rester, faire un studio et s'engager. Et on a eu la même envie au même moment. Elle était cadre chez Bouygues Télécom jusqu'à présent. Là, elle est en congé parental pour notre fille, ensuite pour notre fils. Mais à la fin de son congé parental, bon, là, elle s'occupe des enfants, de moi, de m'aider. Enfin, voilà. Notre fille vient de rentrer à l'école. Elle commence à avoir du temps. Elle commence à prendre en charge la gestion de la boîte d'édition. Et ensuite, c'est elle qui reprendra la gestion et toute la partie contractuelle de la boîte de production aussi. Parce que, avec le studio, j'ai beaucoup à faire avec la musique, avec les artistes dont on s'occupe et avec les gens qu'on a le privilège d'accueillir. Donc c'est sûr que voilà que j'ai besoin d'aide et que pour la suite c'est elle qui va prendre tout ça en main. C'est déjà elle qui s'occupe progressivement de toute la partie texte avec les auteurs ou avec les artistes qui écrivent leurs textes mais dont on s'occupe. Voilà, c'est quelqu'un qui a la compréhension du métier qui l'a vécu elle et qui l'a vécu aussi à travers moi même quand elle a arrêté pendant un moment, qui a les mêmes aspirations que moi et les mêmes envies et envie de défendre les mêmes choses. J'ai dit, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour la philosophie de la musique. On a un peu la même philosophie de la vie de couple, c'est-à-dire que si on le fait pas ensemble, on le fait pas. Tu vois, là, pendant l'enregistrement, j'ai quand même passé 8 semaines d'affilée où j'avais juste le dimanche de libre et où Stanislas arrivant vers 10h. Il faut quand même que le studio soit ouvert avant et opérationnel. Donc moi, j'arrivais entre 9h15 et 9h30. Et le temps de faire les archivages de sécurité le soir sur les disques durs et compagnie, j'étais jamais parti avant 10h. Donc j'ai quand même vu mes enfants uniquement le dimanche pendant 8 semaines d'affilée. Si on n'est pas d'accord, si c'est pas concerté et si on n'est pas dans la même dynamique, ça peut pas le faire. C'est une évidence. Ceci dit, j'aime passionnément ma femme. Il faut savoir.
J'aime ma femme aussi. Je ne ferai pas ça sans elle.
Non. Ouais, c'est obligé. Ça me demande tellement d'implication qu'on peut pas le faire. Déjà, on pourrait pas le faire bien si on avait un point noir comme ça dans la tête, un espèce de petit nuage dans. On a déjà suffisamment d'occasions de ne pas être 100% à ce qu'on a à faire. Il y a un moment, il faut au moins qu'on ait le soutien de notre entourage proche, c'est une évidence. Mais c'est pareil, hein, j'aurais pas pu faire tout ça sans ma mère. Tu sais, quand j'ai mon premier album s'est pas signé et qu'il a fallu que je me remette, j'habitais chez maman. Quand il a fallu acheter la première maquille, elle est prof, donc elle est fonctionnaire, donc elle pouvait faire un petit crédit pour l'achat de la maquille. Le temps que j'ai assez de clients pour pouvoir la rembourser. Puis après, quand il a fallu acheter des adats, pareil. Et puis voilà, on se fait pas tout seul. On se fait pas tout seul. Moi, si j'avais pas eu ma maman pour m'aider, j'aurais pas pu y arriver. C'est une évidence.
Ah, en quoi les femmes?
Ah, alors là-dessus, j'ai une théorie. Ah. Et que l'homme est et devient l'image que sa femme a de lui.
Méditer.
Ouais, ceci dit, elle n'est pas de moi, elle est Jacques Brel. Mais oui, je pense que le meilleur de l'homme, c'est ce que sa femme imagine de lui. À méditer.
Bien, nous allons terminer cette émission paroles. Sur ces bonnes paroles.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci Karim d'être venu.
Rien.
J'espère vous revoir, te revoir bien bientôt sûr. Pour parler de plein de choses encore.
Ah bah avec plaisir.
De la SACEM, ça serait bien.
D'accord. C'est parti. On refera une visite pour la SACEM.
Parce que Karim est membre...
Définitif de la SACEM depuis cette année.
Définitif de la SACEM. Donc il faudra qu'on fasse une émission un petit peu pour expliquer ce qu'est la SACEM. On va essayer d'avoir d'autres gens de la SACEM.
Ça marche.
Et de pouvoir faire une émission là-dessus.
Je serai là.
Merci beaucoup Karim.
De rien.
Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous les deux.
À vous aussi. Bonne soirée à toi aussi.
Autre radio, autre culture. Au revoir.
Ding, ding, ding.
Autre radio, autre culture.